Bonjour et bienvenue dans De l'idée au projet, le podcast où on explique comment monter un projet culturel européen de A à Z, comment l'imaginer, comment le pitcher, choisir les bonnes personnes et les bons outils pour le réaliser et surtout comment le financer. Dans chaque épisode, on découvre les coulisses d'un projet ou d'une entreprise culturelle. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interroger Perrine Gauthier, cofondatrice de La Cabane, une société de production spécialisée dans l'animation. Si je reçois Perrine, c'est parce qu'elle a notamment produit une série géniale pour les 4-7 ans, Mouche Mouche et les Champotes. L'histoire de trois petits champignons dotés de pouvoirs magiques qui vivent dans la forêt et font tout pour la préserver. La série a été diffusée dans le monde entier et elle a même été nommée aux Emmy Awards en 2021. J'imagine qu'avant d'en arriver là, il faut déjà avoir une certaine expérience du storytelling et de l'animation. Alors, pour commencer, je demande à Perrine Gauthier ce qu'elle faisait avant de créer La Cabane Production en 2015.
Alors, juste avant de monter cette boîte, je travaillais dans un studio qui s'appelle Timto, qui est un studio basé à Paris, pendant plusieurs années. Et avant ça, je vivais aux États-Unis, à New York, où j'ai commencé à travailler à la suite de mes études. Et un peu de fil en aiguille, je me suis retrouvée à découvrir l'animation par le biais de la distribution, en travaillant pour la société qui distribuait le catalogue de Bill Plimpton, qui est un animateur et réalisateur culte indépendant américain. Et donc voilà, j'ai découvert l'animation par le biais de la distribution au départ et ensuite je suis revenue à ce que je voulais vraiment faire, voilà, le métier qui m'intéressait vraiment, à savoir la production, en rentrant à Paris et en arrivant chez Timto et ensuite en créant La Cabane.
Qu'est-ce qui vous a attiré en particulier vers le monde de l'animation ?
Ce que j'aime particulièrement dans l'animation, c'est déjà ce foisonnement d'étapes et d'artistes à toutes les étapes. Évidemment, il y a de grands talents et des artistes très intéressants sur tous les types de projets, quels qu'ils soient. Mais c'est vrai qu'en animation, la particularité, c'est que la fabrication, c'est un peu tout le temps. Contrairement au cinéma live, en tout cas ce que j'en ai vécu moi, on est moins dans un process où on a la prépa, le tournage, la post-production. En animation, ces étapes s'imbriquent de façon beaucoup plus organique, ce qui donne un peu la sensation que le tournage, la fabrication a lieu tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis restée dans l'animation après l'avoir découverte.
En 2015, vous fondez donc La Cabane Production. Avec quelle envie, c'est quoi la ligne éditoriale de cette entreprise ?
Au départ, la volonté derrière la création de la société, c'est évidemment l'envie de faire les choses à sa manière. Je pense que c'est un peu la volonté derrière tout projet d'entrepreneuriat. Et une cabane, pour moi, ça évoque un lieu de créativité et de liberté. Et je pense qu'on n'a pas vraiment de ligne éditoriale à proprement parler. Par contre, le dénominateur commun de tous nos projets et de tout ce qu'on défend, ce sont justement la créativité et la liberté.
Combien de personnes travaillent dans l'équipe de La Cabane Production ?
Dans l'équipe permanente, on est 5. Et en ce moment, on est en production sur deux projets, donc on est entre 10 et 15 personnes en interne, parce qu'on a la particularité de ne pas tout fabriquer en interne. C'est vraiment un choix assumé de ne pas être un studio d'animation, mais vraiment une société d'animation au sein de laquelle on peut faire tout un tas d'étapes de fabrication aussi, mais de façon quand même assez restreinte pour éviter de devoir constamment alimenter ce studio, ce qui peut devenir assez envahissant, notamment sur le développement de nos projets à nous. Et donc, ça varie en fonction des besoins. En ce moment, on est entre 10 et 15 sur les deux projets en question. Et on travaille avec des partenaires prestataires pour les autres départements.
Les départements graphiques, j'imagine ?
Alors, il y a un peu de tout. Et là, il se trouve qu'un des deux projets qu'on produit en ce moment, c'est un unitaire de 30 minutes. Donc, en l'occurrence, on produit beaucoup en interne puisque c'est un format plus réduit. Donc là, par exemple, on fait toute l'animation en interne, ce qui n'est habituellement pas le cas sur une série gros volume. On fait du storyboard en interne, on fait effectivement du développement graphique. Voilà, donc c'est un peu au cas par cas. En fait, on ne veut pas partir du principe qu'on va procéder de la même manière avec le même pipeline sur tous les projets pour pouvoir justement tenir compte des spécificités de chacun d'entre eux.
Le projet phare de la cabane, c'est la série d'animation Mouche Mouche et les Champottes, qui met en scène Mouche Mouche, un petit champignon qui possède le don de communiquer avec la nature. On suit ses aventures aux côtés de ses meilleurs amis, Sepp, qui a une grande mémoire, et Lilith, qui a le pouvoir de s'illuminer dans le noir. Comment est née l'idée d'une série animée sur trois petits champignons ?
Alors au départ, tout ça est parti d'un email que Yuri Christian, qui est le cofondateur de la cabane, a reçu d'une artiste qui s'appelle Elfriede de Rooster, qui est une artiste belge flamande, comme lui d'ailleurs, qui s'intéressait à nos projets, qui cherchait du travail tout simplement. Et en allant sur son site, sur le site d'Elfriede, j'ai découvert une photo d'une petite figurine d'un personnage qui s'appelait Mouche Mouche, Mouche Mouche en anglais, que j'ai trouvé à la fois charmant, attachant, mais aussi évocateur de tout un univers. Et donc, je lui ai proposé de commencer à développer une série ensemble et de l'associer à d'autres auteurs pour compléter l'équipe de développement, donc à savoir Benjamin Richard, qui a coécrit la Bible avec elle, la Bible littéraire, et Yuri Christian, qui a assuré la réalisation.
Est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'écriture de cette Bible ? Combien de temps ça vous a pris et comment vous avez travaillé à imaginer cet univers ?
En fait, la façon dont on a procédé, c'est qu'avant même de démarrer le travail de Bible, j'ai passé du temps à vraiment défricher le projet. Parce que ce qui arrive souvent quand on reçoit un projet ou quand on repère un projet littéraire, il y a souvent beaucoup de choses, voire trop de choses. C'est-à-dire trop d'idées, trop d'envies, trop d'intentions. Ce qui est plutôt mieux que le contraire, mais c'est-à-dire il faut faire une sorte de tri pour essayer de comprendre quel est le cœur de la vision de l'auteur ou l'autrice en question. Donc on a vraiment passé du temps d'abord toutes les deux à trouver ce qu'elle voulait vraiment raconter et la façon dont elle voulait le raconter. Et ensuite donc avec Benjamin Richard en co-auteur de la Bible, s'est mis en place ce processus-là de définir les personnages, les lieux, les thèmes et de resserrer le concept. C'est souvent ça qui se passe pendant l'écriture de la Bible, c'est qu'on part avec une intention et puis on resserre un peu le concept. C'est la base de tout ce qui va suivre derrière.
Combien de temps prend ce processus créatif d'écrire la Bible et de commencer à imaginer les histoires et les épisodes ?
Ça peut être très, très variable. Le développement global de Mush Mush a pris environ 2 ans, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui n'est pas énorme, d'autant plus que c'était la première série de La Cabane et que c'était un projet porté au départ par une autrice qui n'avait jamais développé de série auparavant, etc. Donc, la Bible littéraire, je dirais que c'est au minimum 1 an. Souvent, ça peut être beaucoup plus. Il y a des projets de séries qui mettent des années et des années à se développer avant de trouver la bonne formule, entre guillemets.
Combien ça coûte cette phase de création du concept, 2 ans de travail sur un seul projet ? J'imagine que ça coûte beaucoup d'argent.
Oui, alors à vrai dire, c'est difficile de mettre un chiffre précis dessus parce que c'est plein d'étapes différentes. Il y a d'abord l'écriture de la Bible littéraire, il y a tout le développement graphique, d'abord en 2D, donc vraiment le concept, les designs de départ, puis ensuite en 3D si on veut montrer à nos partenaires potentiels à venir ce à quoi ça va ressembler à l'arrivée. J'ai plus les chiffres exactement en tête, parce que c'était il y a 10 ans, mais je pense que sur Mush Mush, c'était de l'ordre de 200 000 ou 250 000 euros au total pour le développement.
Et comment vous avez financé ce développement ? J'ai vu que vous aviez bénéficié du soutien du Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle du CNC en 2016 pour 45 000 euros, donc on va dire qu'il y a à peu près un quart de la somme de développement. Qu'est-ce qui a financé le reste du développement ?
On avait reçu l'aide au développement média Single Project, qui a été aussi déterminante. En fait, les aides, donc FAIA, le Fonds d'aide à l'innovation du CNC, et l'aide média sont vraiment 2 aides clés qui nous ont permis de mener le projet à bien. Comme je le disais, la cabane venait d'être créée, donc on n'avait pas de capital très important et on avait besoin de ce pied à l'étrier pour pouvoir se lancer. Et ce sont vraiment ces 2 aides qui nous ont beaucoup aidés dans ce processus-là. Mais ça s'est fait par étapes successives. Donc le FAIA, ça concernait plutôt le teaser. Et l'aide média nous a beaucoup aidés, notamment sur l'écriture, le développement graphique et aussi la recherche de partenaires, puisque tout ça, en fait, on mène le développement en parallèle, une fois qu'on se sent suffisamment prêt à présenter un projet, on mène ça en parallèle du financement qui lui aussi va être déterminant pour lancer la production derrière.
Le tournant majeur dans le développement, c'est donc le Cartoon Forum de 2016, où vous projetez le teaser produit avec l'aide du Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle du CNC. Ce pitch, ce teaser, déclenche un développement avec Canal+, et suscite l'intérêt de partenaires internationaux. Est-ce que vous pouvez me raconter ce moment de la vie de Mouche Mouche ?
Oui, c'est vrai que ça a été un moment déterminant pour Mouche Mouche et pour La Cabane, dans le sens où c'était la concrétisation, enfin l'aboutissement d'une première étape de travail qu'on pouvait présenter à tous les professionnels du secteur, donc français et européen, et plus largement internationaux, au Cartoon, qui est pour moi un événement vraiment fondamental, essentiel et clé dans le secteur. Ça nous a beaucoup servi de tremplin sur différents projets. Et donc, il y a eu un vrai engouement pour le projet, pour Mouche Mouche à ce moment-là. Ça a effectivement donné lieu à la confirmation, l'engagement de Canal sur le développement, mais aussi à l'intérêt de Warner, qui a ensuite confirmé son engagement sur la série, et de Cake, le distributeur international. Donc en fait, ce sont ces différentes pièces du puzzle qui ont commencé à s'assembler à ce moment-là. Ce sont les partenaires qui sont devenus les partenaires clés du projet par la suite.
C'est quoi les termes du deal avec eux ?
Canal, c'était donc le développement de plusieurs éléments. Donc ce qui est assez classique, ça peut être donc une bible littéraire, une bible graphique, plusieurs scénarii, une animatique par exemple. Avec Cake, c'était vraiment un engouement très fort de leur part pour distribuer la série. Et ils ont fait un travail fantastique ensuite pour distribuer la série à l'international. Et Warner, ça a été la petite première petite graine qui a été plantée dans leur esprit et qui a, je pense, éveillé chez eux cet intérêt qui s'est confirmé par la suite sur le long terme, puisque c'est un partenaire qui a été présent sur la saison 1, sur la saison 2, etc. Donc ce sont des accords qui représentent à la fois un engagement en développement, mais aussi une perspective pour la production.
La fabrication d'un épisode en animation comporte tout un tas d'étapes. Il y a l'écriture, le storyboard, le design, la musique, le son, jusqu'à l'animation et le rendu final. Est-ce que vous avez une idée du temps de travail que représente un épisode de 11 minutes, même si j'imagine que vous ne développez pas épisode par épisode ?
Une série de ce volume-là, c'est à peu près 2 ans de production. Mais on met environ 1 an à sortir le premier épisode, puisqu'en fait, au départ, il faut tout mettre en place. Donc, évidemment, l'écriture, le développement graphique et visuel dont on a parlé et tout un tas d'autres choses, mais aussi la création de tous les éléments. En l'occurrence, c'est une série 3D, donc de toute la modélisation des personnages, des décors en 3D, des accessoires qu'on appelle les props. Dans Mouche Mouche, il y a énormément de végétation, donc il faut créer tout cet univers. Et c'est la raison pour laquelle le premier épisode met beaucoup de temps à sortir. Donc le moment où il sort, c'est un moment important pour toute l'équipe. Et ensuite, ça sort de manière beaucoup plus régulière. En gros, on sort tous les autres épisodes dans les 10 mois qui suivent suite à ce premier accomplissement.
Pourquoi avoir fait le choix de la 3D ? Est-ce que c'était nécessaire pour vous pour raconter cette histoire ?
Alors en l'occurrence, c'était vraiment dès la petite figurine créée par Elfriede. C'était une figurine qu'elle avait sculptée en 3D et fait imprimer en 3D. Donc il y avait vraiment cette volonté dès le départ d'avoir un personnage dans un univers assez organique et presque tactile. Donc le rendu 3D, il est assez doux, il n'y a pas du tout le côté plastique. Mais en même temps, oui, ça lui tenait à cœur de raconter cette série en 3D. Et nous, on y voyait vraiment tout l'intérêt. Donc ça s'est fait assez naturellement sur ce projet-là. Et en plus, il se trouve que mon expérience préalable et celle de Yuri, le réalisateur, étaient en 3D. Donc je pense que pour nous, c'était dans la continuité, quoi.
Combien a coûté la première saison de Mouche Mouche et les Champotes ?
Le budget de la première saison était de 7,5 millions.
Vous avez fait une saison de 48 épisodes de 11 minutes plus 2 épisodes spéciaux de 22 minutes chacun. C'est un format classique pour des séries d'animation ?
Alors le format classique, c'est plutôt, ou en tout cas à l'époque, puisque ça s'est un petit peu assoupli ces dernières années, mais c'est plutôt 52 épisodes de 11 minutes. Et en fait, nous, on a souhaité faire 2 épisodes doubles, ce qu'on appelle des spéciaux, parce que narrativement, ça nous permettait d'explorer des choses un petit peu différentes. Dans une histoire de 22 minutes, on a le temps de rentrer un peu plus dans l'émotion, par exemple. C'est quelque chose qu'on a renouvelé aussi sur la saison 2, parce qu'on a trouvé ça très intéressant, autant artistiquement qu'en termes de diffusion.
Qui a financé ce projet ? C'est l'argent pour produire la première saison de Mouche Mouche, ou est-ce que vous l'avez trouvé ?
Alors, c'est une combinaison de plusieurs financements, bien sûr, puisque ce sont quand même des budgets assez conséquents. Il y a d'abord la pièce maîtresse, c'est l'investissement de Canal+ en tant que diffuseur français, qui lui-même nous permet d'aller chercher du financement public français tel que le CNC, et ensuite le crédit d'impôt, etc., des aides régionales. Sur la saison 1, on a eu l'aide de la région Île-de-France, notamment. Donc voilà, il y a, on va dire, une part de financement privé français, une part de financement public français et des acteurs internationaux derrière qui ont été importants dans ce financement-là aussi, notamment avec la prévente à Warner et l'apport d'un, ce qu'on appelle un minimum garanti de Cake, donc le distributeur qui vient aussi s'engager et prendre une forme de risque avec nous sur le potentiel de distribution à l'international.
Une partie du financement est aussi venue de l'appel à projet du volet média du programme européen Europe Créative. Il me semble que vous avez bénéficié de 500 000 euros pour produire la saison 2, mais vous aviez déjà participé pour la première saison. Est-ce que vous vous souvenez du montant du financement de la saison 1 ?
Je m'en souviens très bien parce que le financement média a été essentiel dans la production du projet, tant pour la saison 1 que la saison 2 et dès le développement, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on a obtenu 500 000 euros sur la première saison et 500 000 euros sur la deuxième saison pour mener à bien la production.
Est-ce que vous auriez pu produire la série sans ces aides européennes ? Qu'est-ce qui aurait changé si vous n'aviez pas répondu à ces appels à projets ?
Alors, je pense qu'on aurait produit la série sans l'aide européenne dans le sens où, en fait, la particularité des aides médias, ce sont des aides qui arrivent assez tard dans le processus. Donc, quelque part, on a déjà pris le risque d'y aller ou pas. Par contre, la différence, elle est énorme dans le sens où je pense que les aides médias ont été vraiment déterminantes pour nous permettre d'atteindre l'ambition artistique, mais aussi de distribution qu'on s'était fixée et de pouvoir produire dans de bonnes conditions, sans être à perte, etc. Et de pouvoir aussi, derrière, développer de nouveaux projets plus sereinement. Donc, ça a été vraiment indispensable pour des sociétés comme nous.
Quelles sont les conditions principales à remplir pour un appel à projet TV and Online Content ?
Alors, il y en a beaucoup. Ce sont des dossiers qui sont exigeants, dans le sens où ce qui compte, c'est à la fois la dimension artistique, l'ambition artistique, donc un niveau élevé en termes d'écriture, de développement graphique, de propos, de thématiques, une adéquation entre justement le projet et sa cible, une cible internationale et un potentiel à ce que Média appelle la circulation des œuvres, donc de vraiment faire en sorte que le projet trouve un public le plus large possible, avec des langues différentes, oui, des cultures différentes, et que tout ça fasse sens, que tout ça soit cohérent. Donc, ce qu'il faut aussi montrer au moment de déposer les dossiers médias, c'est qu'on a déjà ce potentiel-là. C'est un peu trouver le bon équilibre. C'est pour ça que c'est compliqué de déposer trop tôt et en même temps, on peut pas déposer trop tard pour respecter les critères. C'est de pouvoir déjà justifier d'un intérêt à l'international et avec une stratégie de distribution et de diffusion qui est déjà bien pensée, une stratégie de communication qui est déjà bien pensée. Donc, en fait, la particularité des dossiers médias par rapport à d'autres dossiers de financement, c'est que tous ces aspects-là sont déjà couverts. On n'est pas seulement sur du développement ou sur de la production ou sur de la distribution. C'est vraiment un ensemble qui doit être cohérent et convaincant.
Entre le moment où vous déposez le dossier et le moment où vous avez une réponse, il se passe combien de temps ?
Il se passe à peu près 6 mois, généralement. Entre 4 et 6 mois, selon les périodes.
La diffusion de Mush Mush a commencé en 2020, pour la première saison. Quelle a été l'audience et quel a été l'accueil du public ?
La série a beaucoup plu. C'est ce qui aussi a conduit à la saison 2, assez rapidement derrière, à des nominations en festival et des prix, etc. Donc, il y a un engouement qui s'est mis en place assez vite. Et en fait, on a assez vite enchaîné entre les deux saisons. Voilà, les ventes dans le monde entier ont donné une vraie impulsion à toute cette séquence-là.
Oui, puisqu'il me semble que la série a été vendue et diffusée dans plus de 120 pays et territoires. Est-ce que vous savez où elle a le mieux marché ?
Alors, c'est même 150 pays. La série a bien marché dans plein d'endroits. Alors, elle a été vendue partout en Europe, elle a été vendue aux États-Unis, elle a été vendue en Chine où elle a très bien marché. Et on continue de recevoir régulièrement des messages de fans qui nous disent ce qu'ils aiment dans la série et tout ça. C'est très chouette. On a eu une seule frustration avec la diffusion de Mush Mush, c'est que la série était en train de cartonner aux États-Unis au moment où elle a été retirée de l'antenne parmi 80 autres programmes. Il n'y avait aucun rapport avec Mush Mush en particulier. C'est le moment où Warner a dû réduire ses coûts de grille et donc ils ont retiré d'un coup 80 programmes de leurs antennes et de HBO Max. Ça a été un peu douloureux parce qu'on savait que la série marchait très très bien. Elle était numéro 2 derrière Sesame Street, qui est un énorme carton aux États-Unis. Donc voilà, ça c'est, on va dire, une frustration qui restera, mais c'est la vie de producteur, de productrice, c'est que parfois on fait aussi avec les conditions du marché qu'on ne contrôle pas directement.
Et donc vous avez fait une deuxième saison de Mush Mush. Est-ce que c'était avec le même budget, les mêmes équipes? On a eu une formule qui fonctionnait, donc on refait la même chose, ou est-ce que vous avez changé des choses pour la saison 2?
Alors, on a changé des choses assez déterminantes, c'est-à-dire d'une certaine manière, c'est une continuité, mais ce qui a changé, c'est le pipeline de production. Donc, en fait, entre la saison 1 et la saison 2, on a décidé de changer d'outil de production en passant sous Unreal, qui est un moteur de rendu en temps réel. Pour des raisons à la fois de configuration, de production, de partenaires, etc. et aussi pour des raisons environnementales. On avait envie de tester l'impact de ce nouveau pipeline-là. Mais ça s'est très bien passé. Et donc, on a changé de studio partenaire qui ont tous, par ailleurs, fait du super boulot. Sur la saison 1, on a travaillé avec Cube, qui est un super studio. Et sur la saison 2, on a travaillé avec... Autour du volcan et Borderline et sur la partie justement Unreal avec un studio qui s'appelle Shards. C'était à la fois une partie de l'équipe qu'on retrouvait et en même temps de nouveaux outils, de nouvelles personnes. Et au final, c'est très bien parce que ça nous a permis de nous découvrir de nouvelles façons de produire.
C'est une série qui se passe donc dans la forêt, qui parle de la nature et qui évidemment sensibilise aussi les plus jeunes à l'écologie, puisque quand on aime la nature, on a envie de la défendre. C'est un sujet qui a l'air de vous tenir à cœur, puisque j'ai vu que vous aviez fait calculer l'empreinte carbone de la production de la série, notamment au moment de la saison 2, et que vous arriviez au chiffre de 91 tonnes d'équivalent CO2. Pour donner une idée de l'échelle, c'est à peu près la consommation annuelle de 9 Français seulement. Pourquoi avoir calculé ce chiffre ?
Déjà, c'était cohérent avec notre démarche en tant que société, les valeurs qu'on cherche à défendre et aussi le propos du projet, comme vous le disiez. Et parce que on voulait nous-mêmes prendre conscience de ce qui pèse, plus lourd ou pas, dans cette empreinte carbone. Et ça a été assez révélateur et on se rend compte notamment... du fait que ce qui pèse beaucoup, ce sont les habitudes alimentaires et de transport de l'équipe. Ça peut être en effet le pipeline de fabrication, comme on l'a constaté avec le passage au temps réel, qui a besoin de beaucoup moins de temps de rendu et donc moins d'électricité, moins de climatisation, etc. Donc ça passe par tout un tas d'aspects et pour nous, ça a été vraiment formateur d'avoir une base en fait de référence, parce que le problème à l'heure actuelle, même si c'est un peu en train d'évoluer, puisque désormais c'est une obligation, pour obtenir des aides au CNC, il faut pouvoir présenter un calcul prévisionnel et final. Mais on a souhaité anticiper cette obligation, puisqu'on a fait le calcul plusieurs années avant qu'elle ne prenne effet, pour justement déjà se former à l'outil, comprendre les enjeux, pouvoir améliorer tout ça, et d'une certaine manière... en prendre conscience de façon beaucoup plus concrète, puisque on est quand même dans un secteur qui est numérique, digital, donc tout ça peut paraître assez abstrait et partager en fait. L'autre chose qui était importante pour nous, c'était pas juste de calculer cette empreinte carbone, mais de la partager publiquement. C'est pour ça qu'on a on a fait part de ce chiffre-là, parce qu'on s'est dit que ça pouvait être utile à d'autres sociétés.
Et donc, comment vous faites concrètement pour essayer de limiter votre impact carbone aujourd'hui pour vos projets suivants ?
En l'occurrence, donc sur Mush Mush, il y a eu cette volonté de changer de pipeline en passant au rendu temps réel, qui est quand même très significatif, parce qu'on est sur une réduction de plus de 95% du temps de rendu. Donc là où sur la saison 1, on était sur des temps de rendu de 45 minutes, sur la saison 2, on parle de quelques secondes ou quelques minutes selon les images. Et après, un autre aspect, c'est qu'on n'utilise pas du tout l'IA générative, qui est très consommatrice d'eau, entre autres. Et qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Ben, moi, ça fait bientôt 8 ans que j'ai pas pris l'avion pour mon travail. À la fois, ça peut paraître anecdotique, et en même temps, quand on sait le poids des déplacements aériens dans le cadre d'une empreinte carbone, je me disais que c'était en cohérence avec nos valeurs, ce qu'on souhaite défendre, et puis une bonne façon de montrer l'exemple aussi vis-à-vis de ce qu'on veut défendre.
C'est un bel exemple du fait qu'on peut investir des marchés étrangers avec un projet artistique sans forcément prendre l'avion et avoir un coût carbone très élevé. Est-ce qu'une saison 3 de Mush Mush est prévue ?
Alors, pas pour l'instant. Je vous cache pas qu'après avoir passé plusieurs années sur Mush Mush, entre le développement, la production des 2 saisons, on avait aussi envie de se tourner vers d'autres projets. Et il se trouve qu'on avait commencé à le faire via un court-métrage qui s'appelle Lucelle Rocher, qui nous a emmené vers autre chose à un moment, et c'est aussi très bien comme ça, parce que c'est un projet qui nous amène vers des pipelines complètement différents. C'est de la 2D, ce sont des enjeux artistiques différents, des enjeux narratifs différents, et donc voilà, aujourd'hui on est en production sur une série issue de cet univers. Donc on est bien occupé avec tout ça, plus d'autres développements qui arriveront courant 2026. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de saison 3 de Mush Mush, mais en tout cas, ce n'est pas d'actualité pour le moment.
Merci beaucoup, Perrine Gauthier.
Merci beaucoup, merci à vous.
Si vous habitez en France, Mouche Mouche et les Champottes est disponible sur Netflix et sur MyCanal. Et si vous êtes producteur ou productrice dans l'audiovisuel, jetez un œil à l'appel à projet TV and Online Content du programme Europe Créative, qui soutient des projets avec un fort potentiel de diffusion à l'international, des projets qui encouragent la coproduction entre plusieurs pays et qui intègrent des stratégies de durabilité, d'inclusion et de diversité. Vous trouverez une fiche détaillée qui explique les critères et les infos nécessaires à la préparation de votre dossier sur le site du Relais Culture Europe, volet Média. Et moi, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast De l'idée au projet. De l'idée au projet est un podcast du Relais Culture Europe, bureau français du programme Europe Créative. Journalisme et réalisation, Mathilde Mélin.